Mary James, un portrait de femme, chapitre 16. Isabelle n'avait aucune raison secrète de refuser la compagnie de son cousin. Elle songeait seulement qu'elle avait un peu abusé de son temps depuis quelques jours et avait décidé, en libre américaine à qui une dépendance trop marquée donne vite un sentiment de gêne, de se suffire à elle-même pendant cette soirée. Elle avait d'ailleurs un goût prononcé pour ces moments de solitude dont elle était un peu sevrée depuis son arrivée en Angleterre. En Amérique, c'était un luxe toujours à sa portée et dont elle éprouvait maintenant la privation. Mais ce soir-là, le hasard semblait vouloir dépouiller de toute vraisemblance le prétexte qu'elle s'était donné pour renoncer à la société de Ralph. Elle était installée dans sa chambre vers 9 heures et s'efforçait, dans la pénombre que rompait mal la lueur de 2 hautes bougies, de s'intéresser à un roman à portée de Garden Court. Elle n'arrivait, malgré toute sa bonne volonté, qu'à lire entre les lignes les mots que son cousin lui avait dit ce jour-là, quand un coup discret frappé à la porte annonça le garçon d'étage qui lui présenta comme un trophée glorieux une carte de visite. En lisant sur le carton le nom de Caspar Goodwood, elle resta un moment interdite et il fallut pour la rappeler à la réalité que le domestique lui demanda avec une imperceptible nuance d'encouragement. « Faut-il faire monter ce gentleman, mademoiselle ?» Isabelle eut encore une brève hésitation et jeta un regard sur la glace. « Faites entrer, » ordonna-t-elle enfin, en lissant ses cheveux pour se donner une contenance. Et Caspar Goodwood lui serrait bientôt la main, sans d'ailleurs prononcer un mot avant la sortie du garçon. « Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma lettre ?» s'enquit-il alors d'un ton vif et légèrement péremptoire, le ton d'un homme habitué à poser des questions précises et volontiers insistantes. Isabelle répondit par une question toute prête. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?»« Par Miss Stackpole. Elle m'a informé que vous seriez probablement seule ce soir chez vous et que vous consentiriez à me recevoir. » « Quand vous a-t-elle donc vue pour vous dire cela ?»« Elle ne m'a pas vue, elle m'a écrit. » Isabelle se tut. Ils restaient tous deux debout, avec un air de contrainte et presque d'hostilité. « Henriette ne m'a jamais prévenu qu'elle vous écrivait, » articula-t-elle enfin. « Ce n'est pas gentil de sa part. »« Vous est-il si désagréable de me voir ?» demanda le jeune homme. « Je ne m'y attendais pas, je n'aime pas ce genre de surprise. »« Vous saviez pourtant que j'étais en ville, il était naturel que nous nous rencontrions. » « Vous appelez ça une rencontre ? J'espérais ne pas vous voir. Dans une ville comme Londres, c'était chose fort possible. »« Vous aviez même de la répugnance à m'écrire, semble-t-il, » insista le nouveau venu. Isabelle ne répondit pas. Elle se sentait vivement blessée par la trahison de Miss Stackpole. « Henriette n'est certainement pas un modèle de délicatesse, » s'écria-t-elle avec amertume. « C'est une grande liberté qu'elle a prise. »« Je ne suis sans doute pas non plus un modèle d'aucune espèce de vertu. » La faute m'en incombe autant qu'à elle. » Isabelle le regarda et trouva que sa mâchoire n'avait jamais été plus carrée. C'était une cause de déplaisir, mais elle ne s'y arrêta point. « Non, ce n'est pas de votre faute autant que de la sienne. Ce que vous avez fait était sans doute inévitable pour vous. »« C'est bien certain, » cria Caspar Goodwood, avec un rire contraint. « Mais maintenant que je suis là, me permettez-vous de rester ? Vous pouvez prendre un siège, certainement. » Elle s'assit tandis que son visiteur prenait la première place venue, en homme peu habitué à se préoccuper de ses aises. « J'ai attendu de jour en jour une réponse à ma lettre. Vous auriez pu m'envoyer quelques lignes. Ce n'est pas la peine de vous écrire qui m'a retenue. Je vous aurais aussi bien écrit 4 pages qu'une seule. Mais mon silence était volontaire. J'ai préférable de m'y cantonner. » Caspar Goodwood tenait les yeux fixés sur ceux de la jeune fille, puis il les abaissa sur un dessin du tapis, comme s'il eût fait un violent effort pour n'en pas dire plus long qu'il ne voulait. C'était un homme fort et emporté, mais il était assez fin pour comprendre qu'une manifestation intempestive de violence ne servirait qu'à mettre mieux en évidence la fausseté de sa situation. Isabelle n'était pas incapable d'apprécier ses avantages sur un homme de cette trempe, et bien que peu portée à s'en prévaloir ouvertement, aimerait assez pouvoir lui dire avec un accent de triomphe. Caspar Goodwood leva de nouveau vers elle des yeux qui semblaient briller sous une visière de casque. Il avait un sentiment très fort de la justice, et se sentait prêt à n'importe quel jour, et en celui-ci plus qu'en tout autre, à discuter la question de ses droits. « Vous dites que vous espériez ne jamais plus entendre parler de moi, je le sais, mais moi, je n'ai jamais souscrit à une telle interdiction. Je vous ai prévenu que vous auriez bientôt de mes nouvelles. Je n'ai jamais dit que j'espérais ne plus jamais entendre parler de vous. » Admettons, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans si vous voulez, cela revient au même. Vous trouvez ? Il me semble à moi que cela fait une grande différence. J'imagine très bien qu'au bout de 10 années, nous pourrions échanger une correspondance très agréable. J'aurais mûri mon style épistolaire à l'époque. » Elle détournait les yeux en prononçant ces mots, si mal en rapport avec la gravité de son interlocuteur. Mais elle le regarda en s'entendant demander de façon assez imprévue. « Est-ce que vous vous plaisez chez votre oncle ?»« Beaucoup. » Elle s'arrêta, puis reprit, dans une explosion véritable. « Où voulez-vous en arriver en insistant de la sorte ? À ne pas vous perdre ? On ne risque pas de perdre ce qui ne vous appartient pas, et même de votre point de vue, vous devriez sentir qu'il y a un moment où il faut se tenir en paix. » « Je vous déplais bien, » constata tristement Caspar Goodwood, moins pour implorer la compassion de la jeune fille que pour bien s'en convaincre lui-même et s'efforcer à l'avenir d'agir avec cette conviction. « Vous ne me ravissez pas du tout, en effet. Vous ne me convenez pas le moins du monde pour l'instant, et le malheur c'est que vous ayez éprouvé le besoin de me le faire aussi inutilement sentir. » Elle savait que Caspar Goodwood n'avait pas une de ces peaux fragiles dont la moindre piqûre d'épingle tire du sang, et dès le début de leur connaissance, ayant à se défendre contre un certain air qu'il prenait de savoir mieux qu'Isabelle même ce qui lui était nécessaire, elle s'était aperçue qu'une parfaite franchise était la meilleure de ses armes. Tâcher d'épargner sa sensibilité ou de s'esquiver de côté comme on aurait pu le faire avec un individu moins résolu à barrer le chemin, c'était de l'agilité perdue avec un Caspar Goodwood qui se saisissait du moindre objet qu'on pouvait laisser à sa portée. Non qu'il fût dépourvu de sensibilité, mais sa surface, passive ou active, était vaste et rude, et il savait toujours panser lui-même ses blessures quand elle l'exigeait. Isabelle retrouvait, en vue d'une juste appréciation des angoisses et des blessures qu'elle pourrait lui infliger, son ancienne impression d'un homme naturellement bardé d'acier et armé de pied en cap pour l'attaque. « C'est une idée à laquelle je ne puis me faire, » dit-il simplement, et avec une générosité redoutable, car Isabelle sentait avec quelle facilité il aurait pu laisser entendre qu'il ne lui avait pas toujours déplu. « Je ne m'y fais pas non plus, et ce n'est pas un état de choses qui puisse exister entre nous. » Si vous arriviez seulement à me chasser quelques mois de votre esprit, nous nous retrouverions en bons termes par la suite. D'accord, mais si je pouvais cesser de penser à vous pendant un certain laps de temps, je n'aurais sans doute aucune peine à le faire indéfiniment. Indéfiniment, c'est plus que je ne vous demande, c'est même plus que je ne voudrais. Vous savez bien que ce que vous demandez est impossible, dit le jeune homme, avec une façon un peu irritante de tenir son épithète pour irréfutable. Ne pouvez-vous pas faire un effort raisonné ? « Vous qui êtes toujours si fort, pourquoi ne le seriez-vous pas en cette seule circonstance ?» Un effort raisonné dans quel but, et voyant qu'elle restait couette. « Je ne puis, en ce qui vous concerne, que vous aimez passionnément, » poursuivit-il. « Être fort, c'est aimer d'autant plus fortement. » Il y a beaucoup de vérité là-dedans, et notre jeune ami sentait en effet la puissance de cet argument, lancé dans l'abîme de la vérité et de la poésie, comme un appât pour son imagination. Mais elle ne tarda pas à se ressaisir. « Pensez à moi ou non, à votre gré, mais laissez-moi tranquille. »« Combien de temps ?»« 1 ou 2 ans, par exemple. »« 1 ou 2, cela fait une différence essentielle. »« Mettons 2, alors, » dit Isabelle, avec une gaieté forcée. « Et qui gagnerais-je ? » demanda le jeune homme, sans se laisser fléchir. « Vous m'aurez grandement obligé. »« Et quelle récompense en aurais-je ? » »« Vous exigez une récompense pour un acte de générosité ?»« Oui, quand il comporte un grand sacrifice. » « Il n'y a pas de générosité sans sacrifice, c'est ce que les hommes ne comprennent pas. Si vous faites un sacrifice, vous mériterez mon admiration. »« Je ne donnerai pas un centime pour votre admiration, pas un fétu de paille. Quand serez-vous ma femme ? Voilà toute la question. »« Si vous continuez à m'importuner comme cela, jamais. Que gagnerais-je à ne pas essayer de vous faire revenir sur cette décision ? Vous ne gagnerez pas davantage à me faire mourir. » Caspar Goodwood abaissa de nouveau les yeux, et considéra un instant le fond de son chapeau. Une rougeur ardente empourpra son visage, et Isabelle s'aperçut que sa vivacité avait enfin porté. Cette constatation prit aussitôt à ses yeux une signification. Classique, romanesque, rédemptrice, elle n'eût su le dire. Mais la douleur du fort était une de ces formes de la pitié humaine qui la touchait le plus, même lorsqu'elle s'accompagnait d'aussi peu de grâce que dans le cas actuel. « Pourquoi m'obligez-vous à vous dire des choses pareilles ? » s'écria-t-elle d'une voix tremblante. « Moi qui voudrais ne vous parler qu'avec douceur et bienveillance sincère. Cela ne me réjouit nullement de sentir qu'un homme s'intéresse à moi et de devoir lui faire de la morale pour l'en dissuader. Il me semble que les autres pourraient un peu réfléchir et comprendre que chacun juge pour soi-même. Je sais que vous n'agissez pas à la légère et que vous avez de bonnes raisons de vous comporter comme vous le faites. mais je n'ai vraiment aucun désir de me marier ou de parler mariage pour l'instant. Il est même probable que je ne me marierai jamais. C'est mon droit absolu, et il y a de la cruauté à presser si vivement une femme et à la solliciter contre son désir. Si je vous fais de la peine, je ne puis que vous en exprimer mes regrets. Ce n'est pas ma faute. Je ne saurais vous épouser rien que pour vous faire plaisir. Je ne dis pas que je resterai toujours votre amie, parce qu'en de telles circonstances, ces paroles-là passent dans la bouche d'une femme pour une sorte d'ironie. Mais mettez-moi un jour à l'épreuve. » Caspar Goodwood avait, durant toute cette apostrophe, gardé les yeux fixés sur la signature de son chapelier et resta encore quelques moments dans cette attitude. Lorsqu'il releva la tête, la vue de l'exquise rougeur que l'animation avait fait monter aux joues d'Isabelle le troubla fort et, sans s'attacher davantage à analyser ses paroles, « je partirai dès demain, je vous laisserai tranquille, finit-il par balbutier. Seulement, ajouta-t-il avec effort, j'ai horreur de vous perdre de vue. Ne craignez rien, je ne ferai pas de mal. Vous en épouserez un autre, aussi certainement que je suis ici, déclara Caspar Goodwood. Trouvez-vous cette accusation généreuse? Pourquoi pas, il y a bien des hommes qui vous en prieront. Je viens pourtant de vous dire que je n'ai aucun désir de mariage et que je ne me marierai presque certainement pas. Je m'en souviens et je souris de votre « presque certainement ». Je ne me fie pas du tout à ce que vous dites. Grand merci, vous m'accusez donc de mentir pour me libérer de vous. Voilà des choses bien délicates à dire. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Vous ne m'avez donné aucun gage. Non, et c'est ce que vous déplorez. Vous pouvez même vous croire tout à fait à l'abri comme vous le souhaitez, mais c'est une illusion, poursuivit le jeune homme, comme s'il se préparait au pire. Parfait, alors. Admettons que je ne sois pas en sécurité. Il en sera ce que vous voulez. Je ne sais d'ailleurs pas, reprit Caspar Goodwood, si ma surveillance y changerait quelque chose. Ah, vraiment? Eh bien, moi, en somme, j'ai très peur de vous. Et vous ne croyez pas que l'on me plaise si facilement? Demanda-t-elle soudain sur un ton nouveau. « Non, je ne le crois pas, et c'est avec cette conviction que je tâcherai de me consoler. Mais on rencontre évidemment, de par le monde, un certain nombre d'hommes très séduisants, et même s'il n'y en avait qu'un, cela suffirait. Le plus séduisant de tous viendra droit à vous, et vous, à coup sûr, vous n'en accepterez pas un qui ne soit remarquable. » « Si par remarquable vous entendez une brillante intelligence, dit Isabelle, et je ne vois pas ce que vous pourriez supposer d'autre, je n'ai pas besoin d'un homme intelligent pour m'enseigner à vivre. Je puis l'apprendre sans aide. »« Apprendre à vivre toute seule? Je voudrais que vous me fassiez part de votre secret, quand vous y serez parvenue. » Elle le regarda un moment, puis avec un vif sourire. « Oh, c'est vous qui devriez vous marier, s'écria-t-elle. » On peut excuser le jeune homme d'avoir un moment trouvé à ses paroles un accent véritablement infernal, et il n'est pas certain que le but d'Isabelle en décochant pareille flèche fût des plus évidents. En tout cas, elle se disait qu'il n'aurait pas dû rôder avec une mine d'animal décharné et famélique. « Dieu vous pardonne, grommela-t-il entre ses dents en se détournant. » La boutade d'Isabelle l'avait mise légèrement dans son tort, et après un moment de silence, elle éprouva le besoin de se justifier. La plus sûre façon de le faire était de le placer dans une situation où elle s'était elle-même trouvée. « Vous me faites une grande injustice, s'écria-t-elle. Vous parlez de choses que vous ignorez. Je ne serai pas une victime si résignée. J'en ai donné la preuve. À moi, oui, assurément. À d'autres aussi. » Elle hésita un moment. « J'ai refusé la semaine dernière une offre de mariage, une offre que l'on pourrait sûrement qualifier d'éblouissante. » « Je suis très heureux de l'apprendre, dit gravement le jeune homme. » C'était une proposition que bien des jeunes filles auraient acceptée et que tout portait à le faire. Isabelle n'avait pas eu d'abord l'intention de raconter cette histoire, mais maintenant qu'elle avait commencé, la satisfaction de s'en ouvrir et de se justifier la poussa. « On m'a offert une grande situation et une grande fortune, un homme qui me plaît extrêmement. » Caspar la considéra avec un intérêt passionné. « Un Anglais ? Un gentilhomme Anglais ?» Le jeune homme ne répliqua point tout d'abord, et ne conclut qu'après une longue réflexion. « Je suis heureux qu'il ait été déçu. Eh bien alors, puisque vous avez des compagnons d'infortune, prenez-en votre parti. » « Je ne traite pas un rival de compagnon, dit sourdement Caspar. « Pourquoi donc, puisque j'ai nettement repoussé sa proposition ?»« Cela n'en fait pas mon compagnon. D'ailleurs, c'est un Anglais. » « Alors, un Anglais n'est pas un être humain. Oh, ces gens, ils ne font pas partie de mon humanité à moi, et peu m'importe ce qu'il advient d'eux. » « Vous êtes très irritée, constata la jeune fille. Nous avons bien assez discuté la question. »« Oui, je suis irritée. Je le reconnais sans peine. » Elle lui tourna le dos pour aller à la fenêtre ouverte et regarda un moment la pénombre de la rue, où la lueur trouble d'un réverbère représentait toute l'animation de la ville. Pendant un moment, les jeunes gens restèrent muets. Caspar demeurait près de la cheminée, le regard funèbre et lointain. Isabelle l'avait virtuellement prié de se retirer, mais au risque de se rendre odieux, il restait rivé à sa place. Elle représentait un besoin trop profond de son être pour y renoncer facilement, et il avait traversé l'océan pour lui arracher un semblant de promesse. Elle finit par quitter la fenêtre et s'approcha de lui. « Vous vous montrez bien injuste après ce que je viens de vous dire. Je regrette de l'avoir fait puisque cela vous intéresse si peu. » « Ah !» s'écria le jeune homme, « si c'est en pensant à moi que vous avez agi !» Il s'arrêta dans la crainte d'entendre démentir un aussi réconfortant espoir. « Je pensais un peu à vous, » acquiesça Isabelle. « Un peu ? Je ne comprends pas. Si le souvenir du sentiment que j'éprouve pour vous a pu avoir quelque poids sur votre décision, c'est lui faire pauvre justice que de prononcer cet « un peu ». Isabelle hocha la tête, comme pour réparer sa bévue. « J'ai refusé un homme très bon, très noble. Tirez-en vos conclusions. » « Alors je vous remercie, » fit gravement Caspar Goodwood. « Je vous remercie du fond du cœur. Et maintenant, il faudrait vous en aller. Ne puis-je pas vous revoir ? Je ne le crois pas. Vous ne manqueriez pas de me reparler de cette histoire, et vous voyez que cela ne mène à rien. Je vous promets de ne pas dire un mot qui puisse vous importuner. » Isabelle réfléchit. « Je rentre dans un ou deux jours chez mon oncle, et je ne puis vous proposer de m'y rejoindre. Ce serait trop léger de ma part. » Caspar réfléchissait de son côté. « C'est à vous aussi de me rendre justice. J'ai reçu, voici plus d'une semaine, une invitation à venir là-bas, et je l'ai refusée. » Isabelle montra sa surprise. « De qui venait cette invitation ?»« De Mr. Ralph Touchett, qui doit être votre cousin. J'ai refusé, faute d'être autorisée par vous à accepter. L'idée de cette invitation semblait venir de Miss Stackpole. » « Elle ne venait assurément pas de moi. Henriette va vraiment un peu loin. Ne l'accablez pas trop, c'est moi que vous blessez. » « Non, vous avez fort bien fait de refuser. Je vous en remercie. » Et Isabelle eut un petit frisson. À la pensée que Lord Warburton et Mr. Goodwood auraient pu se trouver ensemble à Garden Court, la rencontre eût été fort gênante pour Lord Warburton. « Où devrez-vous aller en quittant votre oncle ?» reprit Caspar Goodwood. « À l'étranger, avec ma tante. » À Florence et dans d'autres villes. Le calme avec lequel elle prononça ces mots glaça le cœur du jeune homme. Il la sentait entraînée dans un cercle d'où il se voyait inexorablement exclu. Mais il n'en poussa pas moins son interrogatoire. « Et quand reviendrez-vous en Amérique ?»« Peut-être pas de longtemps. Je me trouve très heureuse ici. »« Alors vous voulez renier votre pays ? Ne faites pas l'enfant. »« Ah, vous seriez bien loin de moi, » gémit Caspar Goodwood. « Je n'en sais rien, » fit-elle avec une certaine générosité. « Le monde, avec toutes ses parties si bien agencées et si proches les unes des autres, paraît bien petit, en somme. »« Il sera toujours trop grand pour moi, » s'écria Caspar, avec une simplicité que notre jeune amie aurait pu trouver touchante si elle ne s'était raidie contre toute concession. Cette attitude répondait à un système, à une théorie qu'elle avait récemment édifiée pour son propre usage, et pour s'y conformer pleinement, elle ajouta presque aussitôt. « Ne m'accusez pas de dureté si je vous avoue que c'est précisément ce que je cherche, être loin de vous. Si je demeurais dans votre voisinage, j'aurais conscience de votre surveillance, et c'est ce que je ne puis souffrir. J'ai trop de goût pour ma liberté. S'il y a une chose au monde que j'apprécie, » acheva-t-elle avec un léger retour d'orgueil, « c'est mon indépendance. » Il y avait dans cette apostrophe une nuance de hauteur qui excita l'admiration de Caspar Goodwood sans que lui déplût la légère suffisance qu'elle trahissait. Il n'avait jamais imaginé qu'elle fût dépourvue d'elle et n'eût pas besoin de la pleine et belle liberté de ses mouvements, et avec ses longs bras et ses grandes enjambées, il ne redoutait point sa force de jeune fille. Si Isabelle avait eu l'intention de le scandaliser, elle manqua son but et ne réussit qu'à le faire sourire. Enfin, il se trouvait sur un terrain solide. « Qui voudrait moins que moi, s'étonna-t-il, enfreindre votre liberté ? Où pourrais-je trouver plus de plaisir qu'à vous voir parfaitement indépendante et agissant à votre guise? C'est pour vous rendre indépendante que je veux vous épouser. » « Voilà un beau sophisme, » admira la jeune fille, avec un sourire plus beau encore. « Une femme de votre âge ne trouve pas l'indépendance en dehors du mariage. Il y a toutes sortes de choses qui lui sont interdites. Elle est arrêtée à chaque pas. » « Cela dépend de la façon de voir les choses, » rétorqua Isabelle avec feu. « Je ne suis plus de la première jeunesse. Je puis faire ce qui me plaît. J'appartiens à une race indépendante. Je n'ai ni père ni mère, je suis pauvre et j'ai des dispositions au sérieux. Je ne suis pas jolie. Rien ne m'oblige donc à être timide et traditionnelle. Je ne puis même Je ne puis même pas me passer pareil luxe. En outre, je tâche de me faire une idée personnelle des choses. À mon sens, mieux vaut juger mal que de ne pas juger du tout. Je ne veux pas être une brebis du troupeau. Je veux choisir ma destinée et voir un peu plus avant dans des affaires humaines que ce que l'on juge convenable de me dire. » Elle s'arrêta un instant, puis reprit sans donner à son interlocuteur le temps de répliquer. « Permettez-moi de vous dire ceci, monsieur Caspar Goodwood. Vous avez bien voulu me faire part de vos craintes touchant mon mariage possible. Si quelque écho vous annonçait que je vais me marier, c'est un bruit qui court souvent sur les jeunes filles, souvenez-vous de cet amour de liberté que je viens de proclamer, devant vous, et n'hésitez pas à douter de ce que l'on dira. » Il y avait quelque chose de net et de passionné dans l'accent avec lequel elle prononça ces paroles, et dans ses yeux une candeur qui lui donnait du poids. Au total, le jeune homme se sentit rassuré, et l'on aurait pu trouver la marque de ce réconfort dans la vivacité avec laquelle il concéda. « Vous demandez seulement à voyager 2 ans. Je consens volontiers à attendre, et vous ferez ce qu'il vous plaira pendant ce temps. Si c'est là toute votre exigence, ne vous en privez pas. Je ne veux pas du tout que vous soyez conventionnel. Le serais-je moi-même, par hasard? Quant à enrichir votre esprit, c'est chose bien superflue à mon gré, mais s'il vous plaît d'aller çà et là et de voir des pays exotiques, je serai ravi de vous faciliter ce plaisir par tous les moyens dont je puis disposer. Vous êtes très généreux, ce qui ne m'étonne pas. Le meilleur moyen de m'aider est d'interposer entre nous autant de centaines de milles d'océans que possible. On croirait que vous voulez commettre un crime. Qui sait? Je veux en être libre aussi si la fantaisie m'en prend. Alors, acquiesça-t-il doucement, je vais repartir. Et il tendit la main en s'efforçant de prendre un air de confiance et de satisfaction. À vrai dire, cette confiance était plus sincère chez Isabelle que chez lui. Non qu'il la tînt pour capable de commettre un crime, mais, quoi qu'elle prétendît, il y avait quelque chose de dangereux dans son refus d'engager son avenir. En prenant la main du jeune homme, Isabelle se sentit pénétrée de respect. Elle appréciait l'attachement qu'il avait pour elle, et le trouvait généreux. Ils restèrent un moment en face l'un de l'autre, les mains unies en une étreinte qui n'était pas purement passive de la part d'Isabelle. « C'est bien, » dit-elle doucement et presque tendrement, « vous ne perdrez rien à vous montrer raisonnable. »« Je reviendrai dans 2 ans, où que vous soyez, » répliqua-t-il avec une gravité caractéristique. Nous avons déjà vu que notre jeune amie était un peu inconséquente, et ses paroles lui firent changer de ton. « Ah, n'oubliez pas que je ne promets rien, absolument rien !» Et, plus doucement, comme pour faciliter leur séparation, « et souvenez-vous aussi que je ne suis pas une victime résignée. » « Vous vous lasserez de votre indépendance. C'est possible, c'est même très probable, et le jour venu, je serai très heureuse de vous voir. » Elle avait posé la main sur le bouton de la porte qui donnait dans sa chambre, et elle attendit un moment pour voir si le jeune homme n'allait pas se retirer. Mais il paraissait incapable de faire un mouvement. Il y avait encore une profonde hésitation dans son attitude et une douloureuse réprobation dans ses yeux. « Il faut que je vous quitte maintenant, » dit Isabelle, et elle ouvrit la porte pour passer dans sa chambre. La pièce était sombre, mais l'obscurité en était tempérée par le rayonnement vague qui montait de la cour de l'hôtel, et Isabelle put discerner les contours des meubles, la lueur confuse de la glace et la masse imposante du grand lit à colonnes. Elle resta un moment aux écoutes, sans bouger, et entendit bientôt Caspar Goodwood sortir de la pièce voisine dont il tira la porte derrière lui. Elle demeura encore un instant dans l'attente, puis, soudain, en un mouvement irrésistible, tomba à genoux au pied du lit, et s'enfouit le visage dans les mains.